Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 19h30, RTL dimanche soir.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.
C'est la chaîne française la plus regardée dans le monde. 50 millions de téléspectateurs chaque semaine. Cette chaîne, c'est France 24. Elle appartient à France Média Monde, une société dont on reçoit ce soir la présidente. Bonsoir Marie-Christine Saragosse.
Bonsoir.
France 24 fête ses 10 ans et pourtant, au bout de 10 ans, eh bien cette chaîne est toujours davantage connue dans le monde qu'en France. Vous allez nous expliquer ce paradoxe. Bonsoir Julien Belvert.
Bonsoir Philippe.
Dans un quart d'heure, le débat des dessous de l'écran. Sur quel thème ce soir?
Alors, taper sur les journalistes et les médias est devenu le nouveau sport national. On l'a vu pendant la primaire à droite et ce n'est pas prêt de s'arrêter en 2017. Comment en est-on arrivé là? On en débat dans un quart d'heure.
Mais d'abord, l'actu média de la semaine. La mort à 62 ans de Rémi Pfimelin, l'ancien patron de France Télévisions de 2010 à 2015, un homme bienveillant parmi les nombreux hommages qui lui ont été rendus, celui de l'actuelle patronne de France Télé, Delphine Ernotte.
Durant ces derniers mois, j'ai appris à connaître l'homme, son sens aigu de l'intérêt général, sa très grande élégance. Son empreinte est là, bien là, et restera longtemps.
Céline Pigalle, nouvelle directrice de la rédaction à BFM TV. Elle prendra ses fonctions juste avant Noël. Elle connaît très bien les chaînes info puisqu'elle a occupé le même poste à LCI et surtout à iTélé pendant 3 ans. iTélé où la situation est dramatique, aveu de Serge Nedjar, directeur général et toujours directeur de la rédaction. Le CSA l'a auditionné cette semaine. Il doit le revoir en janvier pour savoir s'il a tenu ses engagements promis pour mettre fin à la grève. À ce jour, plus de 80 journalistes ont quitté la chaîne. C'est le premier bébé du partenariat TF1 Universal RTL, une fiction policière baptisée Gone, diffusée dans un an. D'autres projets communs sont à l'étude. Enfin, sur quelle plateforme les Français consomment-ils le plus de vidéos à la demande? Eh bien, dans l'ordre, MyTF1, Orange, Netflix, Canal Play et Plus, la plateforme de France Télévisions. C'est le résultat d'une enquête du CNC. La télévision reste de loin le terminal le plus utilisé devant l'ordinateur.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.
Happy birthday, France 24.
France 24, je vous souhaite un bon anniversaire.
Hello, I'm Salman Rushdie and happy birthday, France 24.
Marie-Christine Saragosse, on vient d'entendre des personnalités mondialement connues, Sting, Catherine Deneuve, Salman Rushdie, qui souhaitent bon anniversaire à France 24. J'imagine que ça vous touche.
Profondément. On ne s'attendait pas à voir un tel retour. Ce qui nous touche aussi, c'est les téléspectateurs. Et il y a des réactions auxquelles on ne s'attendait pas, notamment en Inde. J'étais très frappée par notre micro-trottoir sur un marché de Bombay où il y a des gens qui nous reconnaissent, qui nous regardent. Ou tout simplement sur les bords de la Seine, hein, vous disiez qu'on est moins connus
en
France.
Mais
en tout cas, quand les gens nous regardent, ils voient bien qu'on apporte quelque chose de différent, l'ouverture sur le monde, être citoyen du monde. Et certains sont très addicts à cette citoyenneté mondiale.
Oui, on peut le rappeler, France 24 s'est diffusé dans 183 pays. Aujourd'hui, c'est considérable. Le fait d'être plus populaire à l'international qu'en France, est-ce un handicap ou France 24, sa vocation, c'est d'être une chaîne d'abord internationale?
Alors, c'est vrai que notre vocation première, c'est en effet d'exister dans le monde, dans plusieurs langues. On a un maillage mondial, on couvre vraiment l'actualité internationale. Mais en même temps, dans notre cahier des charges, il y a aussi le fait d'expliquer le monde aux Français. Et c'est pourquoi, moi en tout cas depuis plusieurs années, j'essaye de faire en sorte que nos médias aient des endroits où on puisse les entendre en France. Alors c'est vrai, en Ile-de-France, je disais qu'on était sur la TNT pour France 24, mais France 24 ne sera sur la TNT qu'en Ile-de-France, puisque le partenariat avec France Info fait qu'on va peut-être pas mettre deux chaînes publiques sur la TNT.
Vous pourriez réclamer une fréquence TNT en France?
Je ne me suis pas privée de le faire, mais bon, je pense qu'il y a aussi peut-être la crainte que si on était trop présent en France, on ait tendance nous aussi à s'intéresser d'abord aux petites phrases de nos hommes et femmes politiques plutôt qu'aux grands enjeux stratégiques de la planète.
Hors France, Marie-Christine Saragosse, quels sont les pays où France 24 est aujourd'hui la plus présente et la plus puissante?
Je dirais que dans le monde arabe et singulièrement le Maghreb et l'Afrique francophone, on a pratiquement le statut d'une chaîne nationale et même d'une puissante chaîne nationale. Ensuite, dans d'autres zones, par exemple l'Europe, on a beaucoup de foyers en Europe, hein, 166 millions de foyers où on est présent, mais c'est morcelé linguistiquement, et même si on a un canal en anglais, les gens ont une préférence pour leur langue maternelle, donc malgré tout, c'est un peu plus difficile de peser, même si ça augmente. Par exemple, en Italie, on est en TNT, on est en français. Et on joue, je pense, un vrai rôle pour que la langue française soit une langue attractive et vivante.
Ça tombe bien que vous parliez des langues. France 24, aujourd'hui, c'est trois langues principales, hein, des émissions en français, en anglais et en arabe. Et bientôt une quatrième.
Oui, ça, c'est notre cadeau d'anniversaire pour nos 10 ans. Nous allons lancer en septembre prochain la version espagnole destinée à l'Amérique latine, avec une première pour notre chaîne, puisque jusqu'ici, nos rédactions sont à Paris. Mais pour l'espagnol à destination d'Amérique latine, qui seront à Bogota.
C'est une première, ça. Hein.
C'est une grande première, mais on est très attendus. Parce que la France, c'est toujours ce pays qui a inventé la liberté, qui a un art de vivre, qui aime la culture, et ils adorent ça. Et c'est très bouleversant. Enfin, je trouve ça formidable.
On n'a pas rappelé, Marie-Christine Saragosse, la genèse de France 24. Beaucoup de gens l'ont oublié. Jacques Chirac, après la guerre du Golfe, on a eu assez qu'on ne se réfère, en termes internationaux, qu'à CNN, qu'à la BBC, qu'à Al Jazeera. Là, il s'est dit, à ce moment-là, il faut une chaîne internationale de langue française. C'est ça qui a tout lancé.
D'infos. Parce qu'il existe TV5, et ça, il faut vraiment jamais oublier le rôle essentiel que joue TV5 dans le monde. C'est une chaîne généraliste, donc elle offre des films, des documentaires. C'est pas le même statut qu'une chaîne d'infos continue.
Vous avez raison.
Ce que Jacques Chirac a voulu à ce moment-là, c'est une chaîne d'infos très réactive qui ne fasse que de l'info.
Alors, précisément, 10 ans après le lancement de cette chaîne d'infos France 24, que vous disent les gens de par le monde quand ils doivent comparer France 24 à CNN, à la BBC?
Écoutez, alors je ne vais pas parler moi-même parce que ça, on pourrait dire que je suis de parti pris, etc. Je vais dire ce que disent les auditeurs.
Vous avez sorti le dossier de presse,
Oui, j'ai sorti, je cite des tweets qu'on peut retrouver, hein, parce qu'on ne mange jamais.
Ce ne sont pas des faux tweets. Hein.
Non. Alors, un auditeur américain. Les chaînes américaines devraient étudier la couverture de France 24 hier soir. Incroyablement sobre, calme, factuelle, informative. J'en ai en arabe, si vous voulez. Donc, je les ai traduites. Hein, parce que...
S'il vous plaît.
Alors, je tire mon chapeau à France 24, une chaîne professionnelle et crédible, comme je n'en vois pas chez nous.
Ça veut dire que France 24 prend le contre-pied de l'hystérie collective des médias américains, les CNN, l'Al Jazeera, etc. C'est ça, aujourd'hui, l'ADN de France 24?
Et puis, je crois qu'il y a autre chose, c'est qu'on ne se rend là encore pas compte quand on vit dans l'Hexagone. À quel point nos valeurs naturelles, on n'y pense même pas, sont singulières. Ce rapport à la liberté, à l'art de vivre, au beau, à la beauté du monde et des choses, c'est quelque chose qu'on ne se rend même pas compte qu'on vit tout le temps avec. Mais les autres qui nous regardent de l'extérieur, ils sont très attachés à ça. Et c'est cette singularité-là qu'ils reconnaissent aussi, parce qu'on s'appelle France. Ça peut nous valoir des déboires, parce que parfois il y a du France bashing et on se fait aussi...
Alors, précisément, en ce moment, les zones de conflit, l'Irak, la Syrie, est-ce que c'est facile de s'appeler France 24 dans ces pays-là et d'être diffusé dans ces pays-là?
Je pense qu'on ne se pose pas la question de cette façon. Je crois que c'est difficile d'être journaliste aujourd'hui. Tout à l'heure, vous allez avoir un débat sur ce thème. Mais nous, on est convaincus qu'aucun reportage ne vaut une vie. Hein. C'est notre règle de base. Mais on sait aussi que le silence est l'allié des dictatures, des massacres, du non-droit, de tout ça. Moi, je n'oublie pas que le quatrième pouvoir, c'est quand même la presse. Et que donc, c'est important pour une démocratie. Et nous avons une mission démocratique à l'échelle de la planète.
Je vais plus loin dans ma question. France 24 n'est pas seulement un drapeau français, un étendard. Comme ça, vous véhiculez des valeurs.
Oui.
Vous avez une de vos émissions qui s'appelle 51%. 51%, c'est la proportion de femmes dans l'humanité.
Oui.
Et donc, vous diffusez dans des pays qui n'ont pas nos valeurs, notamment l'égalité homme-femme, cette émission.
Oui.
C'est courageux et j'imagine que ça doit vous vouloir parfois des retours compliqués.
Moins celle-ci que la sphère des tabous en arabe.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une émission arabophone qui aborde les sujets qui peuvent fâcher dans le monde arabe, comme les mariages entre religions différentes ou le mariage pour tous. On a un engagement. Et puis, quand on est une femme à la tête d'un média, il manquerait plus qu'on ne soit pas engagé sur ce thème-là.
Quand on vous écoute, on se dit que France 24, c'est formidable. C'est une chaîne qu'on doit évidemment regarder. Philippe l'a dit, les moyens sont considérables. 430 journalistes à Paris. Ça doit coûter une fortune, non ? Contribuable français, France 24.
Eh ben non. Ouais. Le rapport
qualité-prix.
Alors, France 24 toute seule, je ne peux plus vous le dire exactement, puisque j'ai maintenant un groupe,
une entité
unique qui s'appelle France Média Monde. Le budget de France Média Monde, c'est 250 millions d'euros. Alors, la BBC World, dont on parle tout le temps, son budget, c'est plus de 600 millions d'euros. Je ne parle pas des Américains, BBJ, ils sont regroupés dans un organisme qui s'appelle BBJ, c'est aussi plus. Mais même la Deutsche Welle, qui est notre plus concurrent, dirons-nous, plus proche, c'est plus de 300 millions d'euros. Donc, je pense qu'on a le coût auditeur le plus faible du PAF. Attention, même par rapport à RTL, je vais faire les calculs.
Marie-Christine Saragosse, une question liée à l'actualité. Il y a une chaîne qui ne va pas bien du tout en ce moment, c'est iTélé. Plus de 80 journalistes s'en vont. Vous avez reçu des CV à France 24?
Ben oui, bien sûr, j'en reçois. Et puis de gens qu'on connaît, avec qui on a parfois travaillé. Mmh. On essaye de faire notre possible. C'est pas toujours simple parce qu'on a soi-même des contraintes budgétaires, des contraintes d'effectifs. Donc voilà, mais oui.
Une dernière question, Marie-Christine Saragosse. En 2015, vous avez candidaté à la présidence de France Télévisions. Votre candidature était soutenue à l'époque par François Hollande, mais le CSA l'a retoqué au dernier moment. Est-ce que vous avez digéré cet épisode ?
Il faut même que je me demande si c'était l'année dernière, parce que ça me semble il y a 100 ans. Mais non, mais en fait, je ne sais pas si j'étais soutenue. Et le CSA m'a donné une raison que j'ai très bien entendue. C'était le fait que, d'abord, je suis très très attachée au groupe que je dirige et je suis même passionnée par ce groupe, par notre mission. Et je pense même qu'aujourd'hui, plus encore que peut-être il y a 2 ans, notre mission est fondamentale parce qu'on est dans une bataille d'idées mondiales et que le point de vue français est tellement singulier que si c'est pas nous qui le défendons, personne ne le fera à notre place. Donc allons-y. Donc vraiment, j'étais très heureuse où j'étais. Je l'ai fait parce que j'ai pensé que le service public, à ce moment-là, avait besoin de quelqu'un d'expérience et peut-être aussi, je me disais, féminisons. Et ben, c'est féminisé. C'est Delphine Ernotte. On est très copines, ça va très bien. Et puis moi, j'ai été élevée par un père prof de gym, donc j'ai fait beaucoup de sport. Et dans le sport, c'est être un bon perdant qui est important, pas seulement de savoir gagner.
Merci Marie-Christine Saragosse. Je rappelle que vous êtes la présidente de France Média Monde. Et de notre part, à Julien, à moi, vous souhaitez un bon anniversaire à tous les confrères de France 24.
Ah bah c'est très gentil, je vous remercie beaucoup pour cette émission.
Dans un instant, le débat des dessous de l'écran. On va parler du média bashing.
Jusqu'à 19h30, RTL dimanche soir.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.
2017 sera-t-elle l'année du média bashing, l'année du défoulement contre les médias? Autrement dit, les journalistes vont-ils de plus en plus servir de punching ball aux citoyens en général, aux hommes politiques en particulier? Tactique payante à en juger par le résultat de Donald Trump aux États-Unis. Alors pour essayer de comprendre le phénomène, on a invité quelqu'un qui n'est pas journaliste, qui est donc plus objectif que nous, c'est Virginie Spies. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur, maître de conférences à l'Université d'Avignon. Vous vous intéressez à ce qu'on appelle la sémiologie, au sens des mots dans les médias. Et vous avez créé un blog qui s'appelle Sémioblog. À vos côtés, Julien Belvert de Pure Média, toujours là, et Laurent Marsic. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
De RTL. Première question, Virginie Spies. Ce que je décris, ce constat, c'est une profession qui devient parano ou c'est une vraie tendance de fond?
Et certainement un peu des deux, mon capitaine. Peut-être une tendance, on le voit bien, hein, avec ce qui s'est passé récemment et un bashing qui est devenu à la mode envers les journalistes. Et de fait, certainement un peu de parano aussi, parce que à force de se faire taper dessus, on peut imaginer qu'on finisse par voir un peu ça partout. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent et peut-être un petit peu inquiétant tout de même.
Justement, la difficulté face à ce genre de phénomène, pour nous les journalistes, c'est de ne pas passer pour des victimes. On ne veut pas passer pour des victimes.
Oui.
Mais alors, on ne veut pas paraître agressif non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est ça. Le premier problème, c'est qu'en fait, quand ce soit les citoyens ou les politiques disent « Ah, les médias ou les journalistes », on est déjà dans l'erreur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des médias ou des journalistes, sans quoi on pourrait mettre tout dans tout et absolument confondre le magazine Valeurs Actuelles avec le Canard Enchaîné ou l'Huma. Or, ce n'est pas comparable. Ce sont des médias très différents et des journalistes très différents. Donc critiquer les médias comme on critiquerait les journalistes ou les politiques, c'est dire que tout est dans tout, or ce n'est pas le cas. Il faut un peu plus de subtilité et finalement on voit que le bashing envers les médias, c'est aussi une solution assez simple pour dire c'est la faute de l'autre.
Virginie Spies, comment en est-on arrivé là? Pourquoi aujourd'hui on critique autant les journalistes? Est-ce que c'est lié à la période électorale? On le sait avec la primaire à droite, on l'a vu. En 2017, il y aura la présidentielle. Est-ce que c'est lié à ce contexte-là? En 2012, ça avait été aussi le cas avec Nicolas Sarkozy qui avait beaucoup tapé sur les médias.
Bien sûr, déjà, le bashing, le mot est un petit peu à la mode. Mais la critique envers les médias, elle ne date pas d'aujourd'hui, ni en effet de 2012. Elle est là depuis très longtemps.
L'affaire Dreyfus.
Et bien sûr, depuis que les médias existent, ils sont critiqués. Pourquoi? D'abord parce qu'ils sont vus, ils sont dans la lumière nécessairement. Étant dans la lumière, ils sont critiqués, ça c'est absolument naturel d'une part. D'autre part, et vous avez raison de l'observer Julien, aujourd'hui il y a de plus en plus de bashing tout de même. Aussi dû aux réseaux sociaux. Le web social, c'est une formidable chance pour tout le monde d'être informé plus vite, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir suivre les hommes politiques ou les stars qu'on apprécie, etc. Donc c'est une véritable chance, faut pas qu'on se trompe sur ce que je vais dire après. Mais c'est aussi une caisse de résonance incroyable. Et bien souvent, c'est ce qu'on appelle la minorité hurlante, celle qui crie, celle qui râle. Et ceux qui sont contents, bah, ils ne disent rien, ils regardent la télé par exemple, ou ils écoutent la radio, ou ils lisent la presse. Donc on a aussi tendance à regarder plus ce qui est critiqué. Alors le web social, c'est aussi une formidable chambre d'écho qui est intéressante, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on y lit.
Laurent,
le drame, et c'est ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est qu'il y a des gens qui se sont plus informés avec ces réseaux sociaux et notamment sur Facebook qu'avec les médias traditionnels. Et arrive comme ça aussi une idée, c'est que les médias traditionnels mentent et que la vérité se trouve ailleurs. La vérité se trouve aussi sur des sites qui ont aujourd'hui des audiences hallucinantes, qui racontent tout et n'importe quoi sans aucune vérification, et que les gens prennent pour argent comptant parce qu'ils ont le sentiment que eux disent la vérité et que les médias traditionnels leur mentent.
Aux États-Unis, le phénomène a été poussé au paroxysme puisque Donald Trump a fait des attaques contre les médias, une arme électorale. C'était devenu un argument de vente, si j'ose dire. Et ça a marché.
Tout à fait. Et on voit que la chance d'avoir accès aux réseaux sociaux nous met aussi, en tant que public, face à une sorte de logique où tout serait pareil. C'est-à-dire que je vais lire le tweet de ma voisine comme je vais lire le tweet de François Fillon ou de François Hollande, au même niveau. Or, je ne veux pas dire qu'il y en a un qui est au-dessus ou l'autre qui est en dessous, c'est pas ça. Mais un journaliste, en théorie, doit avoir fait de l'enquête, doit avoir étudié son sujet. Il a travaillé des jours, des semaines, voire des mois sur son sujet. Donc peut-être qu'il y aurait ici donc une pédagogie des médias à faire.
Est-ce que ceux qui critiquent les médias ne consomment plus les médias, ou est-ce qu'ils continuent à les consommer pour les critiquer?
Ah oui, alors bien souvent, c'est « je t'aime, moi non plus ». C'est-à-dire que rares sont les personnes qui critiquent et qui ne les regardent plus du tout, ou qui ne les lisent pas. Non. En général, on les critique, mais on les regarde quand même, sans quoi TF1, France 2, d'autres chaînes, RTL, ne feraient pas autant d'audience. Donc non, c'est encore lu, écouté et regardé. Et donc, il y a une sorte de logique de « j'écoute, je regarde » et en même temps, je ne cesse de critiquer. Donc c'est un peu le même rapport qu'ont les politiques aux médias. C'est-à-dire, les politiques critiquent les médias, mais en même temps, ne peuvent absolument pas s'en passer.
Alors, les politiques, Virginie Spies, vous en parlez. Il y a quelques années, les critiques contre les journalistes étaient réservées, j'allais dire, aux extrêmes, c'est-à-dire l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, ou à gauche, des gens comme Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, c'est toute la classe politique qui s'en prend aux journalistes. Écoutez, c'était il y a quelques jours sur RTL.
Madame Martichoux, le tribunal de l'Inquisition, ça suffit.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un missile envoyé par François Fillon à 7h50 sur RTL. Toute la classe politique, y compris les partis classiques.
Oui, mais à croire qu'on peut tout dire et son contraire, parce que le même François Fillon va sur le divan de Karine Lemarchand dans Ambition Intime et commence l'interview en disant « Alors, je n'aime pas parler de mon intimité », enfin à peu près. Et après, il raconte sa vie privée. Donc on peut tout faire finalement, on peut tout dire et son contraire, et en même voilà, donc dire aux médias « je n'aime pas les médias, mais je viens quand même. »
On gagne des voix quand on tape sur les journalistes, quand on est en élection.
Sans aucun doute.
Visiblement, oui. Doute,
parce que c'est très à la mode, ça coûte pas cher. Puis alors dire les journalistes, encore une fois, ce n'est pas attaquer quelqu'un, c'est attaquer une sorte de grand tout qui ne veut rien dire.
Comme on attaque les fonctionnaires, comme on attaque les politiques, comme on attaque.
Voilà. Comme on pourrait attaquer un peuple aussi, les Français, les Américains, voilà, etc. Oui. Donc ça ne veut pas dire grand-chose.
Je voudrais vous poser une question. Il y a eu la grève à iTélé qui s'est terminée il y a pas longtemps. On a remarqué que finalement, il y a eu assez peu de soutien politique pour les gens d'iTélé. Tout le monde disait « Ah, c'est pas bien ce qui leur arrive », mais en fait, des vrais soutiens, il y en a eu très peu. Comme si c'était mal vu d'aller soutenir des journalistes.
Oui, c'est assez étonnant, en fait. Le soutien est venu très, très tard, en fait. Vraiment, en fin de grève pour les politiques.
Encore, ils n'étaient pas très nombreux.
Absolument, ils n'étaient pas très nombreux. Ils sont venus extrêmement tard. Donc, à croire que cette question de la liberté n'est pas à défendre. C'est quand même une chose à rappeler, quoi. Cette liberté, elle est à défendre de tous les points de vue politiques. Il faut qu'il y ait des médias de droite, des médias de gauche, des médias centristes, des médias sans opinion, pourquoi pas. Mais il faut qu'il y en ait de toutes les couleurs, c'est vraiment essentiel.
Alors, je reviens à notre thème principal, le bashing, le dénigrement. Il y a un vrai paradoxe, c'est que les médias sont la cible de ce bashing, mais ils sont aussi accusés d'en faire du bashing. On parle du Hollande bashing, du Sarko bashing, du Juppé bashing, il y a le Fillon bashing maintenant. Donc c'est un vrai paradoxe tout ça.
Mais oui, c'est un paradoxe. Et ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en 2012, à quel point Nicolas Sarkozy avait été bashé, justement, et donc on s'était dit, bon, après Nicolas Sarkozy, ça ne pourra pas être pire. Et non, parce que finalement, avec François Hollande, il y a eu un Hollande bashing tout à fait impressionnant. Et alors, aussi grâce au web, qui nous permet de reprendre une image de François Hollande sous la pluie et de s'en amuser des jours et des jours. Moi, la première, on ne va pas se mentir. C'est une forme de divertissement dans lequel on rentre chacun avec les politiques. Et en effet, on voit François Fillon, toutes les couvertures qu'il a fait là, en quelques jours, Libération,
avec la perruque de Margaret Thatcher.
Exactement, Margaret Thatcher. Donc, il y a comme ça une forme de bashing immédiat, après tout, et les médias ont le droit de le faire.
Alors, le bashing, le dénigrement, il vise les journalistes, mais pas seulement, il vise aussi les humoristes depuis plusieurs mois. On a vu Charline Van Honecker qui s'est pris les reproches de François Fillon, de Nicolas Sarkozy dans l'émission de France 2. Ça procède du même objectif ?
Mais en fait, ce qui procède du même objectif, c'est qu'une fois qu'on est dans la lumière, on peut toujours se faire bâcher. C'est-à-dire que, encore une fois, grâce aux réseaux sociaux, aux pure players, à tous ces médias qui nous donnent plus d'accès qu'il y a 5 ou 10 ans, en fait, et donc plus de notoriété à chacun, finalement, on peut plus vite descendre et se faire descendre. Donc, Charline, se faisant bâcher il y a 10 ou 15 ans à la télévision, on aurait peut-être parlé le lendemain matin à la radio, mais pas plus. Là, il y a un effet de buzz grâce à Twitter, à Facebook, à tout ce que vous voulez comme réseaux sociaux, qui font que même après les grands médias comme la radio ou d'autres les reprennent, et donc le buzz va durer en vérité, il va continuer, il va se reproduire.
Est-ce que c'est pas aussi le retour du bâton, à force de mélanger l'info pure et dure et le divertissement, est-ce qu'on on donne pas le bâton pour se faire battre?
Mais complètement, c'est exactement ça, c'est le symptôme ambition intime, c'est-à-dire de mélanger le divertissement et l'information, et le réel en vérité. Donc on peut finir par imaginer que les hommes qui nous gouvernent sont les mêmes des animateurs télé. Or, ce n'est pas le cas.
Il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas reprocher aux gens qui critiquent les médias, c'est qu'ils ont le sentiment, et c'est aussi pour ça qu'il y a ce bashing contre les journalistes, que les médias sont totalement déconnectés de leur réalité à eux. Et donc, effectivement, quand il y a des émissions de divertissement comme celle de Karine Lemarchand avec les politiques, etc., ce qu'on appelle la connivence, le vieux fantasme de la connivence entre les journalistes et les politiques est accentué. Mmh. Et du coup, les gens ont encore plus le sentiment que les journalistes s'éloignent encore plus d'eux parce qu'il y a cette proximité avec les pouvoirs, qu'ils soient économiques ou politiques.
Oui. Est-ce que ce jugement, il est juste, Virginie Spies, justement ?
Encore une fois, ça va dépendre des journalistes.
Et des médias.
Et des médias. Il y a des ministres qui sont mariés avec des journalistes. Il y en a plusieurs. Voilà, Christine Ockrent, Patrice Schoenberg et d'autres. Mmh. Et après, il y a d'autres journalistes qui sont mariés avec Madame Michu. La majorité des journalistes sont mariés avec Madame Michu, en vérité.
Oui. Virginie Spies, est-ce que ce phénomène de bashing qui se renforce de semaine en semaine, vous pensez qu'il va durer ?
C'est très difficile à prévoir. Je crains qu'il ne dure, en effet, car tous les voyants sont au vert pour que ça continue comme ça. Donc, il faudrait absolument...
ne plus se marier avec des...
mais l'amour, c'est l'amour, écoutez. Mais en effet, faire un travail de terrain pour bien montrer, continuer de montrer comment on travaille, en fait, tout simplement. Et après, il se passe aussi un phénomène qui est intéressant, qui fait que quand on est public, on est souvent public de ce que l'on veut voir. C'est-à-dire, si on veut constater que la télévision... parle de la province, eh bien on regarde le 13h de Pernod et on constate que la télévision s'intéresse à la province. Et si on veut dire le contraire, on va regarder autre chose. Donc on a aussi souvent tendance, en tant que public, téléspectateur ou auditeur, à aller vers ce que l'on aime pour se conforter dans ce que l'on pense. Donc si je suis plutôt à droite, je vais plutôt lire Valeurs Actuelles et Lycée de Versailles.
Valeurs Actuelles qui titre cette semaine La propagande des médias.
Voilà.
On m'a étendu une perche. Merci Virginie Spies. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université d'Avignon, sémiologue, spécialiste des médias. Merci d'être venu ce soir dans Les Dessous de l'écran. Merci Laurent Marsic de RTL et merci Julien Belver de Pure Média.
Salut Philippe.
À dimanche.
Les Dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.